Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous, merci Jean-Marie pour l'invitation à ce cours. Et donc, pour ma part, je vais vous parler donc de la mécanique des matériaux et on va regarder comment cette mécanique des matériaux va impacter les batteries tout solides. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir sur le principe de fonctionnement d'une batterie lithium-ion. Donc, en fait, ici, donc, une batterie lithium-ion est formée donc, de deux électrodes. Lorsque vous allez cycler votre batterie, donc lorsque vous allez la charger et la décharger, vous allez faire des réactions d'oxydoréduction au niveau des électrodes. Pendant ces réactions d'oxydoréduction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le lithium va migrer, diffuser entre ces deux électrodes. Alors, si on s'intéresse aux matériaux de négative, donc par exemple, si on regarde le graphite, qui est un matériau qui est utilisé donc, dans vos batteries actuelles, on voit que lorsque vous allez charger votre batterie, il va se lithier ici, et donc cette lithiation va s'accompagner d'une expansion volumique de l'ordre de 10%. Si on s'intéresse à d'autres matériaux qui sont aussi utilisés comme matériaux de négative dans les batteries, par exemple le silicium ici, on voit que cette lithiation va s'accompagner ici d'une expansion volumique beaucoup plus importante de l'ordre de 300%. Si on s'intéresse maintenant aux batteries lithium-métal, cette fois-ci, lorsque l'on va charger et décharger la batterie, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, on va venir déposer à la charge, ici, du lithium, à la surface donc, d'un collecteur de courant ou à la surface de l'électrode de lithium. Donc, cette charge va s'accompagner d'une augmentation de l'épaisseur de cette électrode de lithium et donc va entraîner une modification des contraintes à l'intérieur même de la batterie. Donc on voit que lorsqu'on va cycler la batterie, eh bien on a des phénomènes de respiration qui se produisent au niveau des électrodes. Donc comme vous l'a montré Jean-Marie, on voit qu'il y a un engouement aujourd'hui à passer d'une technologie donc à électrolyte liquide vers une technologie à électrolyte solide, donc pour des questions donc de sécurité, mais aussi pour des questions de densité d'énergie volumique et massique. On imagine bien que lorsque on cycle la batterie, lorsqu'on est dans le cas d'une technologie avec un électrolyte liquide, eh bien lorsque votre électrode va gonfler, donc lorsque vous allez la lithier, eh bien cet changement volumique va être accommodé ici par une interface solide-liquide. Lorsque l'on va passer à une technologie tout solide, lorsqu'on va avoir donc au niveau de la positive ici un mélange de particules, eh bien lorsque les particules de positive vont changer de volume, eh bien cette fois-ci, on ne met pas en jeu des interfaces solides-liquides, mais on va mettre en jeu des interfaces solides-solides. Donc on voit bien ici que le phénomène est beaucoup plus complexe et va entraîner tout un tas de dégradations au niveau de la cellule qu'il va falloir essayer de compenser, notamment en jouant ici sur la nature même de l'électrolyte. En particulier, on va s'intéresser aux propriétés mécaniques. Alors, quand on mesure les performances d'une batterie, donc comme vous l'avez reporté ici sur cette figure, on va s'intéresser ici à regarder la variation du voltage en fonction ici du nombre d'électrons qui va passer dans le circuit que l'on peut ici représenter par la capacité spécifique. Vous avez ici deux technologies. Donc, vous avez la technologie donc, électrolyte liquide qui est représentée ici en rose et vous avez la technologie tout solide qui est représentée ici en vert. Lorsque l'on va ici charger la batterie et lorsqu'on va la décharger, ce qu'on va chercher, c'est avoir une superposition au niveau de ces deux courbes si les phénomènes sont parfaitement réversibles. Comme vous pouvez le regarder sur cette figure ici, vous constatez au niveau de la courbe en vert qu'il y a une certaine hystérèse, c'est-à-dire que lors de la charge et de la décharge, on ne va pas emprunter ici le même chemin. Donc cela est lié à un phénomène donc de polarisation qui est beaucoup plus important. Vous avez une réversibilité au niveau du phénomène, au niveau des phénomènes électrochimiques. Si on s'intéresse à une autre grandeur, qui est ici l'efficacité coulombique, cette efficacité coulombique représente la réversibilité des processus électrochimiques. On voit quand on compare donc la batterie liquide, électrolyte liquide avec la batterie électrolyte tout solide, on voit que cette efficacité d'abord est plus faible, n'est pas de 100%, ce qui veut dire qu'on a des phénomènes irréversibles dans la batterie, mais on voit qu'elle est beaucoup plus faible dans le cas d'une technologie tout solide. Donc comment on peut expliquer ces phénomènes? Donc on peut expliquer ces phénomènes en partie par justement ces interfaces solide-solide ou ces interfaces solide-liquide. Donc si on s'intéresse à la batterie tout solide, dont je vous ai dit, donc au niveau de la positive, vous avez donc ici un électrolyte tout solide qui va venir mouiller la particule où vous allez venir insérer et désinsérer les ions lithium. Cette interface, elle n'est pas parfaite, vous n'avez pas une parfaite mouillabilité entre ces deux matériaux, et donc vous voyez apparaître ici des pores, et ça, ça va être un phénomène qui va restreindre le passage du lithium entre votre particule de positive et votre électrolyte qui va lui conduire les ions lithium. Si on regarde comment cela se traduit, notamment par ces images de microscopie électronique en transmission, qui sont couplées à des analyses de spectroscopie d'absorption X sur le seuil du nickel. Lorsqu'on va charger donc, l'électrode ici, donc lorsque l'on va désinsérer le lithium, donc on va changer la valence du nickel, donc on va passer du nickel 3+ à du nickel 2+, ce qui est marqué ici par ce changement de couleur, eh bien on voit que lorsque l'on charge donc cette électrode, eh bien on voit que le phénomène est plutôt hétérogène, c'est-à-dire vous voyez des endroits où vous avez plus de coloration verte que de coloration rouge. Donc ce qui montre ici, lorsqu'on fait ce processus de charge, que finalement, le lithium ne va pas parfaitement s'extraire de la particule et qu'il y a une partie du lithium qui peut rester bloquée à l'intérieur de la particule du fait de ce champ restrictif ici au niveau de la circulation du lithium. Si on s'intéresse cette fois-ci donc à une électrode donc dans une technologie électrolyte liquide, on voit que le liquide va parfaitement bien mouiller la particule et donc pour le lithium, il y aura plein de chemins possibles pour pouvoir s'extraire de la particule. Et si on regarde ici au niveau des images que l'on a regardées précédemment, on voit ici qu'au cours de la charge, eh bien, il y a une délithiation qui est relativement homogène et à la fin, donc, on va complètement délithier la particule. Donc on voit bien que ici, dans le cadre de ces batteries tout solides, la mécanique et des matériaux, donc en particulier les propriétés mécaniques de l'électrolyte, va être important, notamment dans ces processus de charge et décharge. Donc, ce qui va nous intéresser au travers de ce cours, nous allons discuter des propriétés mécaniques des matériaux. Nous allons voir comment ces propriétés mécaniques peuvent impacter la mise en forme de la batterie. Et nous allons voir également que ces propriétés mécaniques vont nous permettre d'expliquer les performances des batteries tout solides. Alors, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on va mesurer une propriété mécanique d'un matériau ? Eh bien, on va appliquer une force et on va regarder comment ce matériau répond à cette force, répond à cette contrainte. Donc cette force, elle pourra être appliquée de manière perpendiculaire, par exemple ici à une surface. Elle pourra être également appliquée de manière tangentielle ici à cette surface. Donc cette force, elle aura donc une dimension, une unité, hein, donc ça sera des pascals par mètre carré. Donc vous avez votre matériau, donc vous imaginez, vous avez une balle de tennis, vous appliquez une pression, et qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, votre matériau va réagir, eh bien, il va se déformer. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, on va s'intéresser à la déformation de ce matériau par l'application d'une force. Cette déformation pourra se faire de différentes façons. Elle pourra se faire longitudinalement, ou dans le volume, ou tangentiellement. Ce qui va nous permettre de définir ces différents paramètres. Et ce paramètre déformation n'aura pas d'unité parce qu'on va toujours le comparer à la dimension initiale. Alors, lorsqu'on va s'intéresser aux propriétés mécaniques, qu'est-ce que l'on va mesurer? On va mesurer ce qui se passe quand on va appliquer une contrainte, donc une force à un matériau, comment celui-ci va se déformer. Si on s'intéresse donc à cette propriété, et si on regarde le cas d'un métal, voici le type de courbe que l'on observe. Donc ici, vous avez la contrainte, ici, vous avez l'élongation. On remarque sur cette courbe trois domaines distincts. Le premier domaine ici, noté en bleu, vous remarquez que vous allez appliquer ici une contrainte et vous allez avoir ici une faible déformation de votre matériau. C'est ce qu'on va appeler le domaine élastique. Donc on voit bien ici que la contrainte est vraiment proportionnelle à l'élongation. Et si j'arrête ici ma contrainte et que je reviens à l'état initial, eh bien, c'est parfaitement réversible, c'est-à-dire que je n'aurai pas de déformation de mon matériau. Je vais aller jusqu'à cette valeur RE qui représente la limite d'élasticité et de plasticité. C'est-à-dire qu'au-delà, lorsque je vais continuer à appliquer une force, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien ici, vous allez avoir une déformation beaucoup plus importante du matériau. C'est ce que l'on va définir comme le domaine plastique. Donc ici, si j'arrête d'appliquer ma force, eh bien, je ne reviendrai pas à l'état initial, c'est-à-dire que je vais conserver une certaine déformation. Donc c'est une déformation qui est irréversible. Je vais aller ici jusqu'à une valeur RM, qui est la contrainte maximale qu'on va pouvoir atteindre de déformation, au-delà de laquelle, eh bien, on va avoir un phénomène de striction et de rupture du matériau. Donc ici, on est dans le cadre d'expériences menées en traction. Donc le phénomène de striction ici, ça va être la modification ici de la section, son rétrécissement, qui va être l'initiation ici de la rupture du matériau. Alors cette courbe, elle va être différente en fonction du type de matériau que l'on va regarder. Donc par exemple, si on s'intéresse à des verres et des céramiques ou à des polymères thermodurcissables, eh bien la rupture du matériau va se produire dans le domaine élastique. Donc ici, vous n'avez pas de domaine plastique et ce sont des matériaux qui sont dits plutôt fragiles. Si on s'intéresse aux alliages et métaux, c'est ce que nous venons de voir, ou des polymères qui sont thermoplastiques, bien la courbe va être comme on vient de la décrire, c'est-à-dire que vous allez avoir ici un domaine élastique, un domaine plastique et puis ensuite la rupture. Donc ici, ces matériaux, ils sont plutôt ductiles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une aptitude à se déformer. C'est ce qui va nous intéresser notamment dans le domaine des électrolytes tout solides pour ces batteries tout solides. Le dernier exemple, ce sont les élastomères, des caoutchoucs, qui ont donc une déformation élastique. Il n'y a pas de proportion entre ici la force que vous allez appliquer et la déformation de votre matériau. Donc vous connaissez tous le caoutchouc, comment il se déforme. Donc ici, vous n'avez pas de variation linéaire. Maintenant, on va s'intéresser à un domaine particulier de cette courbe, donc de contrainte en fonction de l'élongation, en particulier dans ce domaine élastique où finalement vous allez appliquer une contrainte relativement forte et vous avez très peu de variations de dimension de l'échantillon. Et donc si on réalise des tests en traction, vous voyez qu'il y a une proportion entre la contrainte et la déformation et on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle ici le module de Young. On peut aussi appliquer donc une force de manière parallèle à une surface, donc c'est ce qu'on va appeler ici le cisaillement. Et là aussi, si on est dans ces domaines de déformation relativement faibles, on va pouvoir avoir un lien entre ici votre contrainte et votre déformation. Et cette fois-ci, ce qui va lier ces deux entités, ça va être le module de Coulomb. Et puis, on peut aussi réaliser des mesures en compression. Et cette fois-ci, la linéarité va être obtenue par cette relation ici. Le facteur K ici va être le module de compressabilité. Alors la question que l'on peut se poser, c'est finalement à quoi correspond ce module de Young? Ce module de Young va rendre compte de la liaison chimique, donc de la cohésion finalement de votre cristal. Et ça va être une valeur intrinsèque du matériau. Alors on peut le calculer, donc on peut par exemple utiliser le modèle électrostatique de Lennard Jones qui a été proposé. Donc ici vous avez deux atomes, donc les deux atomes, lorsque vous allez vouloir les mettre ensemble, il va y avoir des forces de répulsion et d'attraction, puis vous allez avoir un domaine ici d'équilibre qui est représenté ici par cette variation d'énergie potentielle en fonction ici de la distance. Donc lorsque vous formez votre molécule, eh bien vous aurez un minimum qui sera obtenu ici. Eh bien, lorsque vous allez faire la dérivée de cette énergie potentielle, vous allez trouver ici votre force de liaison. Plus la liaison sera forte et plus le module sera élevé. Alors, évidemment, ça c'est valable dans le cas des oxydes, des verres, mais ça ne va pas s'appliquer au cas des polymères qui vont être une exception, où ici, le module de Young va être lié à d'autres paramètres comme la cristallinité, la réticulation. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples de modules que l'on peut observer pour tout un tas de liaisons chimiques, donc la liaison covalente, par exemple, qu'on va retrouver dans le diamant, qui est un matériau relativement dur. Donc vous voyez que le module est relativement élevé. Et puis, je vous ai mis également la liaison ionique, que vous allez retrouver dans les cristaux ioniques. Et vous voyez ici un module qui est beaucoup plus faible. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on va pouvoir mesurer ces modules, quelles sont les expériences que l'on va pouvoir réaliser. Donc je vous ai montré ici, on peut faire de la traction, on peut faire du cisaillement et de la compression, mais quand on va s'adresser aux matériaux d'électrolyte, de batterie, ou des matériaux de batterie, eh bien ces matériaux sont sensibles à l'atmosphère en particulier, ça va être difficile de former des éprouvettes, eh bien on va utiliser d'autres techniques, et on va utiliser donc ce qu'on appelle la nano ou la micro-indentation. Alors en quoi consiste cette expérience? Eh bien vous allez réaliser ici des pellettes, des céramiques, c'est-à-dire vous allez compresser votre poudre et puis vous allez utiliser ici un poinçon ou un indenteur et vous allez utiliser un profil de force et vous allez venir appliquer cet indenteur sur votre matériau jusqu'à une certaine profondeur ici et puis ensuite vous allez retirer cet indenteur avec un profil de charge, ici, c'est ce qu'on appelle la décharge. Et lorsque cet indenteur va se retirer de votre matériau, eh bien, vous allez laisser ici apparaître une empreinte. Donc, ce que l'on va mesurer, c'est finalement le profil ici de force lors de la charge, donc lorsque vous appliquez ici votre indenteur à la surface de matériau et son profil ici de décharge. Si le matériau était parfaitement visco-élastique, ici, ce que l'on devrait observer, c'est que ce point ici devrait revenir, c'est-à-dire lors de la décharge de votre matériau, vous devriez revenir à l'instant initial, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple ici. Et on va pouvoir définir, en fait, deux domaines. Un domaine ici plastique qui indique que vous avez déformé votre matériau et un domaine ici élastique qui montre que vous avez une certaine déformation réversible à l'intérieur du matériau. Si on utilise ces courbes pour calculer le module, on va s'intéresser dans le domaine, donc le module ne peut être calculé que dans le domaine où vous avez donc une contrainte et une très faible variation de dimension de votre échantillon. Donc on va s'intéresser ici à l'instant ici de départ du domaine élastique. On va mesurer ici le coefficient directeur ici de cette droite. On va utiliser cette relation ici pour remonter donc au module du matériau. Alors, la difficulté, c'est vraiment de pouvoir réaliser ces tests sur les échantillons de batterie, parce que ce sont des échantillons qui sont sensibles à tout un tas de polluants ou à l'atmosphère, donc en particulier à la présence d'eau. Et donc, en fait, il va falloir designer un dispositif pour pouvoir réaliser ces expériences dans un domaine contrôlé. Donc ici, c'est un dispositif qui a été conçu au laboratoire et ce dispositif nous permet de protéger l'échantillon en plaçant donc une huile sur notre échantillon pour pouvoir réaliser nos tests. Donc ici, on a travaillé donc avec un profil de décharge qui est présenté ici et on a mesuré ici le déplacement de l'indenteur. Vous avez ici une image de la surface avant indentation et ici après indentation où vous pouvez constater ici l'empreinte qui a été laissée par l'indenteur. Si on regarde ici la courbe de force en fonction du temps, et si on regarde donc la courbe en noir représente la force en fonction du temps, et ici vous avez la profondeur de pénétration de l'indenteur qui est notée ici par la courbe en bleu, ce qu'on constate qui est très intéressant, c'est que lorsque vous avez une force constante ici, vous constatez que l'indenteur continue à pénétrer donc votre échantillon, ce qui est une indication du caractère viscoélastique de ce type de matériau. Ce caractère viscoélastique peut être mis en évidence d'une autre façon. Donc ici, vous avez une image de la surface et ce que l'on peut faire, on peut suivre comment l'empreinte qu'on a laissée à la surface du matériau évolue au cours du temps. Et donc ici, ce que l'on a fait, on a mesuré ici la profondeur de l'indenteur, de l'indentation, enfin de l'empreinte que l'on a laissée ici, et on a regardé comment cette profondeur évolue au cours du temps, c'est-à-dire comment l'empreinte que l'on a réalisée à la surface du matériau se résorbe au cours du temps. Là aussi, on voit qu'on a une résorbation donc de la marque que l'on a fait sur le matériau, ce qui indique qu'on a un caractère visco-élastique du matériau et visco-plastique, en l'occurrence dans l'échelle de temps ici qui est mesurée. Alors, la grande difficulté lorsque l'on fait ces mesures d'indentation, ça va être de mesurer donc ce module de Young. Et quand on réalise ces mesures, tout un tas de paramètres microstructuraux vont influencer la valeur du module. Par exemple, la présence de porosité au niveau de la céramique et la rugosité de votre céramique. Donc pour réaliser ces tests, ce que l'on a fait, on a réalisé des cartographies ici, au niveau de la surface ici de nos pastilles, et on a pu déterminer une valeur moyenne ici du module par ces expériences. Les valeurs que l'on a calculées, donc ce sont des moyennes sur une centaine de points, aujourd'hui on est sur des moyennes de 400 points, on trouve ici une valeur expérimentale de 16 gigapascals qui est comparée donc à des valeurs calculées par des calculs par DFT de 22, donc ce qui est une très bonne mesure expérimentale. Alors, dans ces batteries tout solides, ce qui va être important, c'est de regarder la mécanique, donc les propriétés mécaniques, en particulier de l'électrolyte solide. Donc sur ce graphique ici, vous avez ici le module de cisaillement en fonction du module de votre matériau, représenté pour différents types de conducteurs ioniques, dont Jean-Marie vous a présenté les structures cristallographiques. Vous voyez ici, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que ces modules, ces valeurs de modules, vont dépendre en particulier de la nature de l'anion. Donc on peut constater ici que les matériaux à base de soufre présentent donc un module beaucoup plus petit que les matériaux ici à base d'oxyde, représentés ici en bleu. Aussi, ce qui va impacter donc ce module, comme on l'a vu, c'est relié donc à la structure cristallographique. Donc ici, vous avez différents types de structures, donc des structures d'électrolyte à base de soufre, des structures plutôt d'électrolyte à base d'oxyde et d'électrolyte à base de phosphate. Eh bien, on voit que évidemment ici, ce module va être impacté par cette nature de structure cristallographique. Un autre paramètre qui va être aussi important, c'est la nature de l'ion. Donc ici, vous avez pour la structure anti-perovskite, vous avez ici une structure qui contient des ions lithium et ici une structure qui contient des ions sodium. Eh bien, on voit que le module est impacté par cette nature de cation et beaucoup plus petite dans le cas où vous avez du sodium, donc qui est certainement lié à la polarisabilité de cet ion. Un autre paramètre qui va être extrêmement important, en tout cas dans le domaine des batteries, c'est de regarder en fait le rapport entre le module de cisaillement et le module de Young ici. Et on a constaté de manière empirique que ce paramètre devait être inférieur à 0,5 pour avoir un comportement intéressant dans le domaine des batteries. Et en particulier, ça rend compte de la ductilité du matériau. Alors, cette mécanique de ce matériau d'électrolyte va impacter la mise en forme des batteries, on va voir. Ça va impacter également le fonctionnement de la batterie et ça va impacter aussi l'intégration de l'anode de lithium dans la batterie. Alors on va commencer par regarder la mise en forme et ici je commence par des matériaux de type LATP, donc vous avez la formule chimique ici, qui présente un module de Young qui est relativement élevé, de l'ordre de 100 gigapascals. Ces matériaux, donc vous voyez, se présentent sous la forme de poudre. Pour pouvoir les intégrer dans une batterie, il va falloir donc les compacter. Donc on va les compacter par pression. Ils sont plutôt fragiles, donc on ne va pas pouvoir appliquer une pression trop importante. Et même si on appliquait une pression importante, on n'arriverait jamais ici à avoir un contact particule-particule satisfaisant pour être un bon conducteur ionique. Donc il va falloir activer thermiquement pour avoir de la densification, c'est-à-dire ici, avoir un bon contact avec les particules pour avoir un bon transport du lithium entre les particules. Cette densification, elle se fait à haute température. Et en particulier, ici, vous avez des expériences qui montrent donc la variation de longueur de l'échantillon en fonction de la température. Donc ça, ça va représenter le processus de densification. Et on voit qu'il faut aller ici à des températures de l'ordre de 1000 degrés pour pouvoir densifier le matériau, c'est-à-dire avoir une densité ici de l'ordre proche, on va dire, de 100% et avoir des conductivités ioniques qui soient intéressantes pour être un bon électrolyte de batterie tout solide. Ces températures, ça peut présenter un problème, notamment lorsqu'on va élaborer la composite. Lorsque vous allez élaborer la composite, vous allez mélanger un matériau électroactif avec un conducteur ionique. Et donc, si vous chauffez, vous pouvez avoir de la réactivité au niveau des interfaces, donc former des phases secondaires qui vont gêner le transport des ions lithium. Si on s'intéresse maintenant à des composés qui présentent des modules beaucoup plus faibles ici, donc qui sont beaucoup plus ductiles, eh bien on va pouvoir mettre en forme cette fois-ci l'électrolyte tout solide par simple pressage des particules. Et donc on va pouvoir de cette façon assembler des batteries tout solides. Donc on voit ici que en fonction de la pression que l'on va appliquer, on va avoir une augmentation ici de la densité relative au niveau de la céramique. Donc ici, on va regarder d'un point de vue microstructural ce qui se passe. Donc ici, vous avez les particules que vous n'avez pas pressées et puis les particules que vous avez pressées à une pression de 74 mégapascales. Et lorsqu'on augmente la pression, on voit ce processus de densification apparaître avec une augmentation de la densité. Cette augmentation de la densité va se traduire ici par une amélioration de la conductivité ionique. Donc on voit bien qu'en fonction de la mécanique du matériau d'électrolyte, eh bien on aura accès à différents types de fabrication de la batterie tout solide et ça aura des conséquences, notamment d'un point de vue process, fabrication du dispositif tout solide. Maintenant, on va s'intéresser au cyclage et on va voir que comment les propriétés mécaniques peuvent impacter le cyclage de la batterie tout solide. Donc, si je reprends ici la batterie tout solide et si je m'intéresse plus spécifiquement ici à l'électrode positive, eh bien, je vous rappelle que lorsqu'on va cycler, donc le matériau de positive va changer de volume, donc ce qui va entraîner ici des contraintes aux interfaces solides. Donc, quand on fait ce cyclage, eh bien, vous allez observer des problématiques de fatigue électrochimique due à ces variations volumiques. Le matériau de positive peut lui-même se fracturer, on va y revenir, et du fait que vous appliquez ici des contraintes, vous allez pouvoir aussi fracturer l'électrolyte. Et donc, la façon, en fonction des types de propriétés mécaniques que va avoir votre électrolyte, eh bien, vous allez plus ou moins bien relaxer ces contraintes. Quel va être l'impact ? Eh bien, ça va avoir un impact sur les propriétés de transport, c'est-à-dire que vous allez observer des gradients de concentration au niveau ici de votre électrode, vous allez avoir une perte de contact entre vos particules, et donc vous aurez un mauvais transport et donc de moins bonnes propriétés. Si on s'intéresse cette fois-ci à l'interface ici à l'anode, donc entre le lithium métal et l'électrolyte tout solide, eh bien ici, on va observer aussi des phénomènes de fracture et en fonction même de la nature des propriétés mécaniques de l'électrolyte, de la façon dont il va relaxer les contraintes, ces fractures pourront être très importantes. Le métal, le lithium métal, il est plastique, donc il va se déformer, donc ce qui va nous interdire d'appliquer trop de pression lors du cyclage, et aussi ses propriétés vont évoluer en fonction du temps, donc il va fluer. Donc comment se traduit donc ces propriétés mécaniques sur les propriétés de transport ? Eh bien à l'interface ici, on aura des hétérogénéités de courant. Et ça va être problématique parce que ça va favoriser ici la croissance de dendrites. Si on s'intéresse maintenant à l'électrolyte, eh bien, cet électrolyte, il est coincé entre ces deux électrodes qui elles-mêmes travaillent, respirent. Eh bien, pour accommoder les contraintes qu'il reçoit, eh bien, il aura tendance à se fracturer. Et évidemment, ça va se traduire par des pertes de contact au niveau ici des particules, par un mauvais transport et l'apparition de la porosité. On verra que ces paramètres-là vont favoriser la croissance dendritique et donc vont diminuer les performances de la batterie. Alors, si on veut concevoir une batterie tout solide qui fonctionne, eh bien, il va falloir essayer de minimiser ces gradients de déformation élastique. Alors, comment on va pouvoir procéder ? Eh bien, à la positive, on va pouvoir s'intéresser à concevoir des matériaux de cathode qui n'ont pas de déformation, ou en tout cas où la déformation est la plus faible possible. Donc c'est ce qui a été déjà regardé. Donc on voit ici donc, ce type de matériaux, donc ces oxyfluorures. Donc lorsque vous allez faire ces cycles de charge et décharge, donc vous avez une variation volumique qui est beaucoup plus faible. Donc vous allez avoir moins de contraintes qui vont se présenter à l'intérieur même de votre électrode positive. Donc CEDER a montré que pour concevoir ces types de matériaux, il fallait s'intéresser, on pouvait jouer sur la composition chimique, on pouvait jouer sur l'ordre ionique, on pouvait aussi s'intéresser au métal, à la coordination du métal à l'intérieur même du matériau. Donc tout cela sont des paramètres que l'on peut regarder pour concevoir ce type de matériaux. On peut aussi compenser la déformation, donc à l'échelle de la batterie, par un choix judicieux des matériaux de positive et de négative, mais aussi on peut compenser à l'intérieur même de l'électrode positive. Donc ici, vous avez les variations volumiques en fonction donc ici du taux de lithiation pour différents types de matériaux qui sont utilisés comme électrode positive dans les batteries. Donc ici, vous avez les oxydes de cobalt. Lorsque vous allez les délithier, vous voyez que vous avez une augmentation de volume. Ici, vous avez donc les matériaux dont nous a parlé Jean-Marie, nickel, cobalt, manganèse, où lorsque vous allez les délithier, au contraire, vous avez une contraction du volume. Donc si on associe ces matériaux donc, à l'intérieur même d'une électrode positive, donc on voit ici, lorsqu'on fait la charge et la décharge, dans le cas des oxydes de cobalt, donc on a une augmentation ici de la contrainte, une augmentation du volume et une diminution. Inverse dans le cas du nickel, cobalt, manganèse. Et lorsqu'on les met ensemble, eh bien, on observe une courbe ici où finalement la variation ici de contrainte est plus faible. Néanmoins, cette solution n'est pas une solution viable à l'échelle d'une électrode de batterie tout solide parce que à l'échelle locale, vous allez avoir quand même des contraintes qui vont se former et vous pouvez avoir de la fracturation et donc vous allez perdre le contact au cours du temps, au cours du cyclage. À la négative, la problématique va être un tout petit peu différente. À la négative, donc, un enjeu va être de déposer le lithium métal de manière homogène sous la forme d'un film 2D qui soit parfaitement plan. Et alors, autant on connaît très bien les problématiques de formation de dendrite dans les batteries lithium-ion à électrolyte liquide, autant dans les systèmes tout solides, on est au début de la compréhension des systèmes. Alors, ce que l'on constate, lorsqu'on va faire une batterie tout solide, donc ici, c'est une batterie tout solide à base d'un électrolyte de type argyrodite, donc qui est un matériau qui est relativement ductile, eh bien, on voit ici une diminution de la capacité de rétention au cours du cycle. Et cette diminution de la capacité de rétention au cours du cycle, au cours du cyclage, est liée à la morphologie ici du lithium qui se dépose lorsque vous faites vos cycles de charge et décharge. Donc on voit apparaître ici un lithium qui est extrêmement poreux, qui est sous forme ici de filaments, et ces filaments vont à force de ces cycles, vont pénétrer à l'intérieur de l'électrolyte et vont créer donc un court-circuit de la batterie. Donc on regarde également, par des analyses post-mortem, on voit que ce dépôt de lithium est très hétérogène à la surface ici du collecteur de courant, ce qui traduit que vous avez des hétérogénéités de courant à la surface, au niveau de la surface de votre anode. Alors, pour limiter ces problématiques, donc on peut proposer des couches tampons entre votre électrolyte et votre collecteur de courant, donc des couches tampons qui contiennent donc du carbone et en particulier des nanoparticules d'argent. Le fait d'utiliser ces couches barrières, eh bien, on peut déposer de manière beaucoup plus homogène du lithium. Donc, vous voyez ici un lithium relativement dense. Et lorsque l'on va cycler, eh bien, on va retrouver ici la couche tampon que l'on a utilisée. Donc, le fait de mettre des particules d'argent donc dans cette couche carbonée ici, va abaisser les barrières de cristallisation et on va avoir un dépôt de lithium qui sera beaucoup plus homogène et on aura un courant à l'interface qui sera beaucoup, beaucoup plus homogène. Donc ça se traduit comment ? Eh bien ça se traduit ici, lorsqu'on regarde la capacité de rétention, on voit qu'elle est relativement bonne au cours du cyclage, on est à 1000 cycles, et au niveau de l'efficacité coulombique, on observe des efficacités coulombiques qui sont proches de 100%. Alors, aussi, on va pouvoir, donc, on voit qu'il faut que ce dépôt se fasse de manière très homogène, il faut qu'il soit un dépôt dense, et on peut aussi modifier la mouillabilité de l'électrolyte tout solide pour arriver à avoir un dépôt qui soit homogène à la surface de l'électrolyte. Donc ici, vous avez un exemple, donc il s'agit d'un électrolyte à base de LZO, qui est un oxyde de structure Garnet, et on voit qu'il a une très mauvaise mouillabilité vis-à-vis du lithium, et on voit ici que l'interface entre l'électrolyte et le lithium est très mauvaise, ce qui va entraîner ici des pores et qui va être la source de la croissance dendritique. Si on fait un dépôt ici à l'interface d'une couche, par exemple, d'alumine, on va modifier ici la mouillabilité du lithium et donc on aura une meilleure interface, ce qui va se traduire ici par une capacité beaucoup plus stable au cours du cyclage. Mais il n'y a pas que l'interface qui va jouer dans cette problématique de croissance dendritique. Vous avez aussi la pureté du lithium qui va aussi impacter en fait la croissance dendritique. Donc, ce sont des travaux qui ont été menés par Balsara, cette fois-ci sur des électrolytes, non pas oxyde ou sulfure, mais des électrolytes polymères, où ils montrent ici, on a l'électrolyte polymère avec le lithium métal. Lorsque vous allez faire passer une charge, eh bien, vous voyez ici apparaître des imperfections au niveau de l'électrolyte et vous allez avoir la formation de dendrites. Et ces dendrites, elles sont liées à la présence d'impuretés au niveau du métal, lithium, et ces impuretés vont être la source de la nucléation du lithium et donc, en fait, la source de la nucléation de dendrites. Alors, on peut essayer, évidemment, de contrôler les mécanismes d'atténuation des contraintes en jouant même sur la nature des matériaux et en particulier en jouant sur la taille des matériaux. Donc, par exemple, ici, donc, les auteurs se sont intéressés donc, à cycler des matériaux nickel-cobalt-manganèse qui présentent ici des particules secondaires composées de particules primaires. Et ils ont montré que ce sont des matériaux donc, qui sont polycristallins. Et lorsque l'on va cycler, on a une diminution ici de la capacité. Cette diminution de la capacité, elle va être liée à des phénomènes ici de fractures qui se produisent au cours du cyclage. Et lorsque vous allez cycler, ben vous allez avoir une perte de la masse active et vous allez augmenter les chemins de conduction et donc vous avez une perte de la capacité. Si vous changez ces particules par des particules qui sont beaucoup plus petites ici en taille et qui sont monocristallines, eh bien vous améliorez considérablement ici le cyclage. Et on observe moins de fractures au niveau de la positive. Et ça, à quoi c'est dû ? Eh bien, c'est dû au fait que lorsqu'on va travailler avec ce type de particules, eh bien, vous allez mieux accommoder les contraintes, vous allez avoir des dislocations qui vont permettre un glissement des plans et qui vont éviter la fracturation de votre matériau de positive. Donc, je dirais petit, plus fort, hein, smaller, stronger. Si on s'intéresse maintenant à la négative, eh bien, ici, on va voir que le lithium, il a une particularité, c'est un métal. Comparé aux autres métaux, il a un point de fusion qui est relativement bas. Il est à 180 degrés C. Donc, c'est un métal qui va être extrêmement ductile. Et donc, on peut le voir ici sur ces courbes de contraintes en fonction d'élongation. On va voir qu'il va avoir un domaine plastique relativement important. on voit que ces propriétés vont être liées à comment vous appliquez la contrainte. Et on voit que même si vous appliquez la contrainte de manière assez rapide, eh bien, vous arrivez ici à un plateau de contrainte qui est situé aux alentours de 1 mégapascal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre lithium, eh bien, il va pouvoir se déformer et vous allez pas, il ne va pas pouvoir supporter des forces supérieures à 1 mégapascal. Donc aujourd'hui, lorsqu'on cycle à 100 mégapascal, eh bien, c'est bien trop haut, même 70, pour intégrer du lithium dans votre dispositif tout solide. Mais le lithium, il a aussi cette particularité, c'est que lorsque vous allez changer sa taille, donc ici, ce sont des expériences qui sont réalisées avec des nano-indenteurs, sur ici, des nanofilaments de lithium, eh bien on va voir que la résistance élastique, donc son seuil d'élasticité, va augmenter et il va devenir relativement dur. Et donc quand on modifie la taille, on va modifier la façon dont le lithium va accommoder les contraintes, c'est-à-dire que ici vous allez avoir un glissement des dislocations dans du lithium massif, alors qu'ici vous allez avoir un mécanisme d'accommodation des contraintes qui va être lié à la formation de dislocations. Donc ça va avoir une conséquence. Ça va avoir une conséquence notamment sur la formation dendritique et sur la fracturation de l'électrolyte. Parce que vous imaginez ici, le lithium est capable de supporter 200 mégapascal, donc il va y avoir un rassemblement des contraintes au sommet de votre dendrite qui va imposer des contraintes relativement fortes à votre électrolyte. Il va pouvoir se fracturer. Comment on peut améliorer ? Finalement, donc, comment on peut améliorer ces processus, comment on peut atténuer les contraintes en s'intéressant cette fois-ci à l'électrolyte. Alors, par exemple, on sait que dans les céramiques, on peut améliorer la déformation plastique en créant des dislocations. Donc ici, vous avez un matériau à l'origine, où vous avez ici un indenteur, où vous allez craquer ici par l'application d'une pression. Et lorsque vous allez ajouter des dislocations à ce matériau, vous voyez que vous avez une meilleure résistance ici à la fracture. Ça se traduit ici sur ces courbes de force en fonction de la profondeur des dentations. Vous voyez apparaître sur le matériau origine, ici, une discontinuité au niveau de la courbe qui rend compte d'une fracture. Et on voit que le matériau qui présente des dislocations, il n'y a pas cette discontinuité. On peut regarder ici ce facteur K qui va être représentatif de la ductilité du matériau et on voit qu'en intégrant des dislocations, on a une augmentation de ce facteur. Donc si on forme des dislocations, on va pouvoir modifier les propriétés mécaniques du matériau, mais aussi on va voir que ces propriétés, on va pouvoir aussi modifier les propriétés ioniques. Donc en particulier ici, lorsqu'on va s'intéresser à des matériaux d'argirodite, par l'application ici d'une pression, on forme ces dislocations et la proportion de dislocations que l'on va former va dépendre de la pression que l'on va appliquer. Et ça va jouer ici sur la conductivité ionique. On voit que plus il y a de dislocations, plus la conductivité est meilleure. Et ça, ce n'est pas dû à un changement de mécanisme, hein, puisqu'ici vous avez des énergies d'activation qui ont été calculées par différentes techniques. C'est dû juste, par rapport à ce qu'a raconté Jean-Marie, à une fréquence de saut qui est certainement plus importante. Si on intègre ces matériaux qui ont été modifiés donc ici dans des batteries tout solides, on voit qu'on conserve, qu'on a des propriétés ici qui sont relativement intéressantes, mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, si on s'intéresse à la conductivité ionique au niveau de l'électrode positive, eh bien on va voir que la conductivité ionique est meilleure quand on a un matériau qui présente donc ces dislocations, et en plus on aura modifié aussi ses propriétés mécaniques. Alors, comment on peut ajouter ces dislocations dans les matériaux d'électrolyte de batterie? Eh bien, on peut jouer sur le procédé et on peut utiliser des procédés de densification hors équilibre. Donc, par exemple, ici, on va réaliser des compacts où on va appliquer ici un courant, ce qui va nous permettre donc de monter très très vite en température et donc ici de favoriser la présence éventuellement de défauts à l'intérieur du matériau, ce qui a été réalisé ici sur des oxydes à base de TiO2 où on voit apparaître ici des défauts d'empilement et la présence de dislocations au niveau de la céramique. Comment ça se traduit d'un point de vue mécanique? Donc ici vous avez un matériau de TiO2 qui n'a pas été renforcé par la présence de ces dislocations. Donc on voit qu'il casse vraiment dans le domaine élastique, dans cette courbe ici en rouge. Et lorsque, donc ici, vous avez donc les expériences où on voit apparaître ici une fracture, lorsque l'on va appliquer une contrainte, et lorsqu'on va intégrer des dislocations au niveau du matériau, on voit apparaître ici un domaine de plasticité dans votre matériau, et ça se traduit sur les images ici par des plans de glissement et donc une modification des propriétés mécaniques de votre système. Alors, si on s'intéresse à un autre matériau d'électrolyte, qui est ce matériau ici à base de phosphore, oxygène et azote, on constate ce matériau, il a été utilisé donc dans les batteries tout solides, en particulier les batteries sous forme de film mince, et on voit que ce matériau permet de cycler 10 000 fois, donc il est relativement bon en termes de propriétés pour ce type d'application. Quand on regarde les propriétés mécaniques de ce matériau, donc il a un module qui va être situé aux alentours de 70 gigapascals, mais surtout, comme vous voyez ici, lorsqu'on fait ces mesures d'indentation, on voit qu'il a un seuil de plasticité, donc on voit ici que le matériau va former des espèces de bourrelets et donc il va être capable d'accommoder de cette façon-là les contraintes. Ce qui n'est pas du tout le cas des matériaux oxydes de type LATP où on va apparaître ici des fractures, des hétérogénéités au niveau ici des courbes d'indentation qui sont représentatifs de ces caractéristiques, donc fractures et pores. Ce qui va être aussi important, c'est de regarder ce facteur ici, donc qui est le rapport entre le module et la dureté du matériau, qui va aussi rendre compte de la ductilité du matériau. Donc on voit ici qu'il est relativement faible, donc dans le cas de LATP, ce sont des matériaux relativement fragiles, et dans le cas de ces matériaux donc lipons, de type vert amorphe, eh bien ce paramètre est plus important, et ce sont des matériaux qui sont beaucoup plus ductiles. Ces matériaux présentent aussi la caractéristique, lorsque l'on va faire ici des profils de charge différents, eh bien ils vont présenter des phénomènes ici d'hystérèse au niveau de l'indentation, ce qui va traduire un caractère visco-plastique ou visto-élastique en fonction des contraintes de temps que l'on va utiliser. Alors, si on regarde la fatigue électrochimique, donc ici, si on repart sur notre composite, notre positive de notre batterie, donc qui est un mélange ici entre les particules actives et ici en bleu clair votre électrolyte tout solide, ce qui va être important, c'est évidemment cette interface entre ces deux matériaux. Ce que l'on peut constater, donc quand on va cycler, on va ici avoir des variations volumiques, on va observer un certain nombre de dégradations. Donc on va observer des fractures transgranulaires, c'est-à-dire à l'intérieur même de votre particule. On va observer des fractures intergranulaires, c'est-à-dire entre les grains. Et puis, on va observer aussi une fracture qui va pouvoir se passer à l'interface entre ces deux matériaux, mais aussi des phénomènes de fissuration qui vont avoir lieu ici au niveau de l'électrolyte. Et ces pertes, elles apparaissent évidemment dès les premiers cycles, comme on peut le voir ici, lorsqu'on va comparer ici cette courbe en bleu et ces courbes orange. Donc, on voit ici que l'on a une irréversibilité qui va être liée donc à cette fracturation, à cette perte de contact que l'on va observer au niveau de la positive. Pour pouvoir démontrer qu'il s'agit bien de cette perte de contact, on peut suivre ici la variation de la résistance de contact entre l'électrolyte, entre le conducteur ionique et le matériau électroactif, donc qui est représenté ici en rouge, et on voit que cette résistance augmente au cours du temps, ce qui met bien en évidence ces problèmes d'interface qui se produisent au cours du cyclage. Évidemment, comme on l'a déjà constaté, on peut utiliser la pression pour essayer d'améliorer tout cela. Parce qu'effectivement, si vous appliquez une pression, vous allez fermer votre fracture. Vous n'allez pas permettre à ce que votre fracture se propage. Mais on a vu que dans le cas où on intégrerait le lithium, il ne faut pas avoir des pressions trop importantes. Donc la pression, effectivement, donc ici c'est ce que les auteurs ont fait sur cette étude. Donc vous avez ici la capacité de décharge en fonction du nombre de cycles. Pour différents types de matériaux de négative, donc ici le silicium et le graphite, je vous rappelle, silicium c'est plus 300%, le graphite c'est plus 10%. Et on peut constater que lorsqu'on va ici appliquer une pression de 75 mégapascal, eh bien, on peut limiter ici la fracturation. Donc, au niveau de l'électrolyte, on voit en apparaître, mais elle est plus faible. Et dans le cas du carbone, eh bien, on peut conserver ici un électrolyte qui reste relativement intact. Donc, la pression effectivement améliore, mais attention, la pression, on ne peut pas utiliser des pressions trop importantes, sinon on ne pourra pas intégrer le lithium métal. Une autre problématique des batteries tout solides, ça va être vraiment la croissance du lithium, comment ce lithium va se déposer, puisqu'on a vu que c'était vraiment là où il pouvait y avoir un intérêt à concevoir ces batteries. Donc ici, vous voyez, donc on a un électrolyte de type argyrodite avec ici deux électrodes de lithium, et on regarde en fonction du courant que l'on va faire passer comment évolue la microstructure de votre électrolyte. Et vous voyez qu'avec l'augmentation du courant, on observe ici une croissance, on voit apparaître ici des fractures, et ces fractures augmentent avec le temps, et cette fracturation est liée au défaut que vous avez à la surface, c'est-à-dire à l'interface entre votre céramique ici et votre lithium. Et donc ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut constater qui est assez intéressant, c'est que vous allez d'abord avoir la fracturation, et ensuite, parce que vous avez cet espace libre, ben, le lithium va venir s'engouffrer. Et comme je vous ai dit que le lithium, lorsqu'il était tout petit, il était très fort, eh bien il va poursuivre, il va faire que la fracture va continuer à pénétrer dans le matériau. Donc c'est ce qui est représenté ici par ces schémas. Donc au départ, donc on va avoir une dendrite de lithium qui va pousser. Ici, vous avez beaucoup de tensions qui se forment. Ça va fracturer votre électrolyte et évidemment, ça va encourager le lithium à pénétrer et à traverser votre électrolyte et donc à observer donc des phénomènes de court-circuit. Évidemment, il n'y a pas que les défauts surfaciques qui vont aussi être la source de la croissance dendritique. Vous avez aussi des défauts volumiques. Et donc ces défauts volumiques, comment ils sont obtenus? Ils sont souvent obtenus lorsqu'on va densifier des céramiques à haute température. Je vous ai dit dans le cas des matériaux qui présentent des modules élevés, pour pouvoir les densifier, pour pouvoir les utiliser comme matériaux d'électrolyte, eh bien, il va falloir les densifier à haute température. Donc ici, vous avez donc la conductivité en fonction ici de la température. Donc vous voyez qu'il faut aller à relativement haute température pour avoir des conductivités importantes. Si on regarde ici le nombre de transferts qui représente qui bouge dans le matériau, on voit que si on est trop bas, eh bien ici, le nombre de transferts n'est pas égal à 1, ce qui veut dire que vous avez des électrons qui participent dans le processus. Et si on va haut en température, ici, on voit qu'on a essentiellement le lithium qui bouge. Malgré cela, le fait de la présence d'un petit peu de porosité, donc ici à 1150 degrés, on a 4,5% de porosité, eh bien ici, on voit apparaître sur ces graphiques, où on va regarder ici la densité de courant critique, eh bien on va voir apparaître ici des phénomènes discontinus qui sont liés à la croissance dendritique. Donc quand on a plus de porosité, évidemment ça apparaît à des courants beaucoup plus bas. Et donc on voit ici apparaître, au niveau de votre pastille ici, la présence de filaments de lithium. Ce mécanisme de croissance va aussi pouvoir se faire à partir des joints de grains. Les joints de grains, comme Jean-Marie l'a expliqué, ce sont des domaines où vous avez un petit peu de conductivité électronique, ce qui est représenté ici par la mesure du band gap. Eh bien, ces joints de grains vont donner des électrons et vont favoriser donc la croissance dendritique. Donc ici, vous allez avoir des densités de courant qui seront beaucoup plus faibles, c'est-à-dire vous allez observer la croissance dendritique pour des densités de courant beaucoup plus faibles. Quand on regarde au niveau de la microstructure, eh bien ici, on voit apparaître une espèce de microstructure à la surface de la pastille poreuse qui va être liée donc à cette croissance dendritique. Et si on regarde ici les images de microscopie électronique à transmission, et si on s'intéresse ici à ce défaut qui est un défaut donc ici à l'intersection des particules d'oxyde, eh bien on voit ici une modification de l'intensité intensité, ce qui traduit en fait la croissance de votre lithium. Et donc ici, vous avez le schéma. Donc en fait, ces joints de grains contiennent des électrons et donc vous allez faire favoriser la croissance du lithium dans ces joints de grains. Alors maintenant, je vais terminer par comment on peut mesurer les contraintes dans ces batteries. Et donc, on va pouvoir mesurer ces contraintes de différentes façons. Donc, on peut utiliser ici des capteurs de pression. Donc, je vous rappelle, donc, si on utilise par exemple des matériaux qui vont avoir des variations volumiques différentes en fonction de la lithiation, on peut de manière macroscopique, donc ici ce sont des mesures macroscopiques, lorsque vous allez ici cycler votre batterie, donc charger, décharger, eh bien ici vous avez une évolution des contraintes qui suit parfaitement votre cycle et vous retrouvez ici, hein, lorsqu'on va délithier, eh bien vous avez une augmentation de la contrainte qui va être liée à une augmentation du volume de la maille. Si je regarde maintenant ces matériaux qui, eux, présentent une variation volumique négative, eh bien, vous voyez à la charge et à la décharge, eh bien, on a une diminution de la contrainte et une réaugmentation de la contrainte. Et donc ici, on voit que lorsqu'on va délithier, eh bien, on a une diminution de la contrainte, ce qui se traduit par une contraction de votre maille volumique. On peut aussi utiliser des méthodes acoustiques pour aller mesurer ces contraintes. Et en fait, on peut faire ce qu'on appelle de l'imagerie par ultrason, c'est de l'échographie. Et donc, en fait, ici, typiquement, vous avez votre batterie, ici, toute solide, et vous allez, ici, envoyer des ondes acoustiques, donc à haute fréquence, et vous allez regarder comment ces ondes vont être perturbées quand elles vont traverser, ici, votre batterie. Et donc, elles vont être sensibles en particulier aux interfaces, c'est-à-dire aux changements de milieu. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir voir en particulier ce qui se passe entre votre positive et votre électrolyte. Donc, si vous avez une réactivité, par exemple, si vous avez des gaz qui sont produits dans votre batterie ou si vous avez de la passivation parce que vous allez changer la réponse acoustique de votre système. Alors ici, ce sont des expériences qui ont été réalisées sur des interfaces donc à base d'oxyde de cobalt en présence donc d'électrolytes tout solides de type argyrodite. Et donc ici, donc on va balayer ici en potentiel et on va regarder donc le courant. Et vous avez les images donc instantanées qui sont réalisées en fonction du potentiel appliqué. Et ce qui est intéressant ici, donc on va suivre cette coloration bleue qui va augmenter avec ici le potentiel qui est lié ici à la décomposition d'une partie de votre système. Donc en l'occurrence ici, donc la fabrication de la cellule faisait intervenir des solvants. Donc il y avait un mauvais séchage des solvants et donc à potentiel élevé, on avait une dégradation des solvants sous la forme de gaz. On peut réaliser cela sur des systèmes complets, ici, de batterie, et où on voit ici également l'apparition, donc ici, de gaz qui se forment au cours du cyclage de cette batterie tout solide. Et là, c'est simplement dû à des procédés de fabrication. Hein, donc, en fait, le système est tout solide, il n'y a pas de solvant, Jean-Marie, dedans. Hein, c'est juste les solvants qui ont été piégés à l'intérieur de la batterie et qui ont été mal séchés durant la conception et qui vont ensuite, lors du cyclage, se décomposer. Alors, on peut aussi regarder beaucoup plus localement ce qui se passe au niveau des contraintes et on peut utiliser donc des fibres optiques. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé dans l'équipe de Jean-Marie. Donc, en fait, ici, on est dans l'intimité, je dirais, de la batterie. Donc, on va utiliser donc des fibres optiques avec des réseaux de Bragg ici. Donc, on va illuminer cette fibre. Et puis, vous allez avoir une partie de l'intensité lumineuse qui va être transmise et une partie qui va être réfléchie ici par la présence de ces réseaux de Bragg. Et donc, cette fibre va être positionnée donc à l'intérieur même ici de la batterie et donc tout ce qui va perturber ici la fibre, donc tout ce qui va modifier ici l'indice de réfraction optique ou qui peut modifier ici le réflecteur de Bragg, va rendre compte d'un phénomène et donc cette modification ici de la longueur d'onde que vous allez mesurer va être reliée ici à des phénomènes donc d'élongation longitudinale en l'occurrence ici. Et si vous êtes dans des domaines de faible déformation, ben, vous allez pouvoir appliquer la loi de Hooke et donc vous allez pouvoir relier cette déformation à la contrainte. Donc c'est ce qu'ils ont fait au laboratoire, et donc ils ont regardé ici au cours du cyclage comment varier donc déjà la pression externe et comment varier donc la pression interne qui est mesurée ici par cette fibre optique, et on peut même remonter aux contraintes à l'intérieur même du cyclage de la batterie, et donc on voit qu'on est dans des contraintes de l'ordre de 7 à 4 mégapascal. Alors pour finir, je voudrais vous présenter donc un résumé un petit peu de ce que j'ai raconté et puis quelques réflexions autour justement de ce couplage entre les propriétés mécaniques, la mise en forme et le cyclage des batteries. Et donc on voit que il y a une corrélation donc en fait entre la chimie, l'électrochimie et la mécanique. Donc si on s'intéresse donc quand on design une batterie, donc on va avoir donc un matériau actif ici, la cathode, un électrolyte solide qui va être aussi présent au niveau de cette composite, et puis on a le lithium métallique. Je dirais que les problématiques sont très complexes au niveau du lithium métal. On a vu donc cette croissance dendritique qu'il va falloir gérer, que l'on va pouvoir gérer donc en jouant sur cette interface entre le lithium métal et l'électrolyte. Donc, ce qu'on peut voir au niveau de l'électrochimie, au niveau du transport, c'est que, en fait, ces propriétés mécaniques entraînent ici des courants non uniformes à l'interface qui vont en fait favoriser cette croissance dendritique. Au niveau de l'électrolyte, on a pu remarquer que, en fait, les propriétés mécaniques avaient un impact sur la perte de contact des particules, donc qui entraînait un mauvais transport. On a pu observer aussi de la porosité. Et au niveau ici de la composite, de la positive, eh bien, on a pu voir que les contraintes mécaniques pouvaient aussi entraîner ici des gradients de concentration et du mauvais transport au niveau de l'électrode. Et donc ici, je vous ai mis en résumé toutes les propriétés mécaniques qui vont gérer en fait chacun des éléments de la batterie, hein, et qui vont impacter ici le transport que l'on vient de discuter. Donc, si on veut essayer d'avoir des systèmes qui fonctionnent, il va falloir trouver des mécanismes de relaxation des contraintes, donc à la fois au niveau de l'électrolyte, à la fois au niveau du lithium. Et il ne faut pas perdre de vue que, en fait, ces propriétés mécaniques, ces mécanismes de relaxation des contraintes vont dépendre de la dimension des objets, vont dépendre de la température et vont aussi dépendre des densités de courant que vous appliquez. Et donc ça va être très important lorsqu'on va s'intéresser à de la charge rapide en particulier. Donc il va falloir concevoir des matériaux d'électrodes sans variation volumique, des céramiques d'autant plus ductiles, et concevoir une anode en lithium qui accommode les contraintes. Et donc pour cela, il va falloir essayer de modéliser pour décrire le lien qui existe entre déformation et contrainte dans ces batteries tout solides. Donc on aura besoin de la modélisation. Donc je finirai par remercier mon équipe avec qui je travaille au quotidien. Sans eux, eh bien, ça serait déjà beaucoup plus triste de faire de la recherche. Et puis merci Jean-Marie, merci pour ton enthousiasme dans ce domaine des batteries.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.